juste avant de recevoir Michel, on va se mettre dans l'ambiance de la chronique astro.
La Terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Voilà, on est toujours en direct, c'est notre journal sur de radio, on se mercredi 4 janvier, et voilà, et c'est la première de l'année pour vous Michel, même sur la chronique 94 sur le chiffre, je suis bon ?
Oui, c'est bon, et peut-être la centième d'ici 6 mois, donc fin juin, début juillet.
On va en parler, parce que justement on en avait un petit peu évoqué pour la centième, voilà, si on pouvait faire quelque chose, pas forcément aller sur la Lune ou Mars, mais si on en reparlera. Bonne année déjà Michel, hein. C'est vrai que là, tout le long de l'année, on va commencer par souhaiter la bonne année à chaque animateur. Donc Michel, juste avant...
Je profite aussi du passage à l'antenne début janvier pour souhaiter une bonne année à tous les auditeurs d'O2 Radio et à toute l'équipe de la station. Après la crise sanitaire que nous avons traversée ces dernières années, il reste important de se souhaiter d'abord une bonne santé, parce que c'est la condition nécessaire pour profiter de tout le reste. Et à tous les astronomes, je souhaite un bon ciel, avec de nombreuses nuits claires en 2023 nous permettant d'admirer les merveilles au-dessus de nos têtes, même si le calendrier ne nous prévoit pas d'événements bien notables, comme nous le verrons tout à l'heure.
Allez, très bien, on continue à dérouler. C'est la chronique qui était partie. Voilà, donc tout d'abord, premier point, vous allez nous parler de l'actu et du succès d'Artemis 1 avec le retour sur Terre de la capsule Orion.
Oui, comme nos auditeurs ont pu le suivre en direct le 11 décembre à 18h40, heure française, la capsule Orion a réussi son amérissage en douceur dans le Pacifique au large de la Basse-Californie. Cela venait conclure la mission historique Artemis 1 de presque un mois, pour être précis 25 jours, depuis son lancement le 16 novembre, avec environ une semaine pour atteindre la Lune, une mise en orbite sur une longue trajectoire très elliptique d'environ 6 jours, parcourue presque deux fois, puis de nouveau une semaine pour revenir jusqu'à la Terre. Cette première étape du nouveau programme lunaire américain aurait été un succès pour toutes les phases critiques qui se sont bien déroulées. Le premier lancement de la fusée SLS, la mise en orbite automatique autour de la Lune alors que le vaisseau Orion était derrière la Lune, donc inaccessible aux communications depuis la Terre. Ensuite, la rentrée à grande vitesse dans l'atmosphère avec une technique de rebond jamais utilisée auparavant. Puis le freinage dans l'air avec un nouveau bouclier thermique protégeant l'intérieur de la capsule de la chaleur intense extérieure dans les 2700 degrés. En raison de tous ces risques, la capsule était inhabitée, son équipage étant remplacé par des mannequins bardés de capteurs afin de mesurer différents paramètres auxquels seront soumis les futurs astronautes, comme les accélérations, les radiations, etc. Tout ce périple a aussi été l'occasion de procéder à de nombreux tests du comportement du vaisseau Orion. La prochaine étape, Artemis 2, consistera à refaire à peu près la même mission, mais cette fois avec un équipage humain à bord. Cela n'est prévu qu'en mai 2024, puis seulement en 2025, Artemis 3, qui devrait voir un équipage se poser à la surface de la Lune. Ce nouveau programme lunaire est l'occasion de signaler que 2022 voit se clore le cycle de commémoration du cinquantenaire des missions Apollo, commencé en juillet 2019 avec le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, et même décembre 2018 pour la première mission humaine en orbite autour de la Lune, un peu comme la future Artemis 2 qui s'était déroulée à Noël 1968. En effet, c'est à décembre 1972 que remonte la dernière mission Apollo 17 qui avait posé sur la Lune Eugene Cernan et Harrison Schmitt du 11 au 14 décembre, date de départ définitive de la surface de notre satellite jusqu'à la future Artemis 3. C'était la première fois qu'un équipage Apollo comptait un scientifique, le géologue Harrison Schmitt, qui qui a pu choisir de manière plus pertinente les 741 échantillons de roches prélevées pour un total de 111 kilos au cours de 22 heures de sortie en 3 fois avec la fameuse Jeep lunaire qui leur a permis de s'éloigner parfois de 20 km de leur base, le module lunaire LEM. Je profite de ce retour en arrière pour faire un petit bilan de l'année 2022, comme il est coutume de le faire quand une année se termine. Pour l'astronomie, je relèverai la publication de la deuxième image d'un trou noir en mai, celle du trou noir supermassif, environ 4 millions de fois la masse du Soleil, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, image obtenue en combinant les observations de radiotélescopes à l'échelle de la Terre entière. À la lisière entre astronomie et mission spatiale, il y a eu en juin la publication de la troisième version du catalogue obtenu avec la sonde européenne Gaïa, contenant presque 3 milliards d'étoiles de notre Voie lactée. C'est une mine dans laquelle les astronomes pourront puiser pendant des années, voire des décennies, afin de mieux comprendre la structure et l'histoire de notre galaxie. Pour ce qui concerne les missions spatiales humaines, outre Artemis 1, 2022 aura vu le lancement des modules et l'assemblage de la station spatiale chinoise Tianhe, qui s'est achevée début décembre. Même si elle est moins grosse, donc moins lumineuse que l'ISS, la Station Spatiale Internationale, on pourra la voir traverser le ciel en début de nuit à partir du 19 janvier. Le 27 septembre, la mission DART modifiait la trajectoire d'un petit astéroïde en le percutant, démontrant que cette technique pourrait être employée à l'avenir, peut-être pour protéger la Terre d'un astéroïde géocroiseur qui menacerait de la percuter. L'été dernier, c'était la bonne mise en place et le déploiement réussi du nouveau télescope spatial JWST qui marquera sans doute une étape historique dans l'observation de l'univers par les humains. Après les premières belles images qui ont démontré ses qualités, nous espérons découvrir dans les tout prochains mois les premiers résultats scientifiques importants avec à la clé peut-être quelques surprises imprévues qui mettront à mal certaines de nos théories et nous ouvrirons la porte vers de nouvelles connaissances. Mais dans le domaine astronautique, tout n'a pas été rose en 2022 quand a débuté la guerre d'Ukraine avec dans l'espace pour conséquence l'arrêt de toutes les coopérations avec la Russie, excepté pour l'ISS, ce qui nous prive de l'utilisation des lanceurs russes pour l'envoi de sondes spatiales en retardant de nombreuses missions, notamment ExoMars 2022 qui aurait dû partir en septembre pour la planète rouge et se trouve reportée d'au moins 2 ans pour profiter d'une prochaine opposition de Mars ou peut-être 4 si elle ne peut être adaptée à un nouveau lanceur à temps. Comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, 2022 aura vu aussi un nouveau retard du programme européen Ariane 6, la fusée sur laquelle pourraient se reporter certaines de ses missions et dont on n'attend pas le premier tir de test avant l'automne prochain. Et l'année s'est achevée avec le 20 décembre dernier l'échec du premier tir commercial du lanceur européen Vega destiné à placer des satellites en orbite basse et qui aurait pu aussi remplacer des fusées russes pour certains lancements.
Alors après ce bilan de 2022, Michel, quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année 2023 ?
Alors en décembre dernier, un lanceur Ariane 6 complet a été assemblé au centre spatial guyanais à Kourou, mais il ne doit pas décoller car il est destiné à réaliser de nombreux tests durant le premier semestre 2023, notamment un premier allumage du corps central du premier étage de cette fusée de 63 mètres de haut et de 530 à 860 tonnes selon sa configuration avec 2 ou 4 boosters latéraux. L'étape importante sera le premier tir d'Ariane 6 en automne, d'autant qu'elle pourrait devenir à l'avenir capable d'envoyer des spationautes européens dans l'espace, notamment avec le projet de module cargo ou habité réutilisable SUSY d'Ariane Group, dont la faisabilité doit être étudiée grâce à un financement de 40 millions d'euros décidé par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en novembre à Paris, à l'occasion du rendez-vous triennal permettant aux pays membres de réaliser les arbitrages budgétaires sur les différents programmes proposés. Du côté de l'Inde, on prévoit en mars et peut-être en mai les 2 premiers essais automatiques de la capsule Gagayan, je ne garantis pas la prononciation de l'indien, ou véhicule céleste en sanskrit, un vaisseau destiné à envoyer un équipage dans l'espace avec le lanceur indien GSLV-3, peut-être dès l'année suivante. Ces échéances ont été annoncées par l'ISRO, l'Agence spatiale indienne, lors du Congrès international d'astronautique qui s'est tenu à Paris en septembre dernier. À cette occasion, une partie du programme spatial chinois a aussi été dévoilée, mais il n'indiquait pas de mission notable en 2023, le retour d'une sonde sur la Lune, Chang'e 6, n'étant prévu qu'en 2024 ou 2025. Côté américain, la NASA va poursuivre les envois d'astronautes vers l'ISS avec la capsule Crew Dragon de SpaceX, la prochaine mission étant prévue mi-février, mais en avril devrait se dérouler le premier test avec équipage du vaisseau concurrent CST-100 Starliner de Boeing, susceptible de venir prendre une part de ses navettes d'équipage vers l'ISS si ce vol d'essai est réussi. Dans le cadre de son programme lunaire, la NASA doit envoyer en mars un ensemble de dispositifs se poser sur la surface lunaire pour préparer le futur alunissage d'un équipage humain. En milieu d'année, c'est un satellite qui devrait être mis en orbite autour de la Lune pour étudier la répartition de l'eau à la surface de notre satellite, une ressource précieuse pour envisager d'occuper une station lunaire pendant des semaines ou des mois. Dans le cadre de l'exploration lunaire, on attend aussi du côté de SpaceX le premier tir de sa fusée record constitué du premier étage Falcon Heavy, prévu pour lancer les éléments de la future Lunar Gateway, surmonté par le vaisseau Starship qui devrait faire la navette entre cette station spatiale et la surface de la Lune. Comme cet assemblage a été réalisé en fin d'année dernière, les plus optimistes attendaient ce test en décembre, ce qui n'a pas eu lieu, donc peut-être le verrons-nous se réaliser au tout début de 2023. Dans le domaine des télescopes spatiaux et des sondes, la NASA prévoit dans l'année le lancement de X-RISM, un télescope construit en coopération avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise, qui observera dans le domaine des rayons X, donc des phénomènes très énergétiques dans le cosmos. En octobre, ce sera Psyche, qui doit aller étudier l'astéroïde du même nom à partir de 2026, astéroïde métallique qu'on pense être le vestige du noyau ferreux d'une protoplanète et pourrait nous renseigner sur la formation des planètes du système solaire. Pour ce qui concerne l'agence spatiale européenne, l'ESA, il y aura le lancement du télescope spatial Euclide, prévu initialement avec une fusée russe, mais reporté sur un Falcon 9 de SpaceX. Un peu comme Gaïa pour les étoiles de la Voie lactée, mais cette fois pour les galaxies et amas de galaxies, il a pour mission de mesurer avec précision environ 1,5 milliard de galaxies, ce qui devrait nous permettre de mieux comprendre l'expansion de l'univers et cartographier la distribution de la mystérieuse matière noire qui échappe à nos observations. En début d'année, en principe en janvier puis en avril, doivent avoir lieu les deux derniers tirs d'Ariane 5 à Kourou. Le dernier devant envoyer la sonde européenne JUICE vers Jupiter et ses lunes glacées pour savoir si la vie aurait pu se développer dans leurs océans subglaciaires.
Alors en attendant ce programme pour l'année qui commence, encore quelles actualités des dernières semaines de 2022, Michel ?
Oui, avec des nouvelles des missions martiennes, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est l'arrêt officiel de la sonde américaine InSight. Contrairement au rover déployé à la surface de la planète rouge, c'est un engin statique qui est resté sur le site où il s'est posé le 26 novembre 2018. Son objectif était l'étude du sous-sol de Mars avec principalement deux instruments, le sismomètre CEIS, conçu par le CNES français, le CNES c'est le Centre National des Études Spatiales, et HP3 fourni par l'agence spatiale allemande destinée à mesurer les flux de chaleur en provenance du cœur de la planète. Malheureusement, ça a été un demi-échec car ce capteur n'a jamais pu fonctionner comme prévu, car il n'a jamais pu réussir à s'enfoncer jusqu'à 5 mètres de profondeur, comme c'était prévu, dans le sol, et il n'a jamais dépassé 40 cm. Le sismomètre, lui, a donné de bons résultats en détectant plus de 1300 tremblements de terre, en fait on devrait dire plutôt des tremblements de Mars d'ailleurs, et notamment l'enregistrement de la chute de deux astéroïdes, comme je l'avais relaté début novembre, indiquant dans la chronique qu'on s'attendait à l'arrêt de la sonde dans les semaines suivantes. La cause en est toute simple, le faible vent martien soulève la fine poussière ocre qui recouvre une grande partie de la surface martienne et a la mauvaise idée de se déposer sur les panneaux solaires d'InSight, privant progressivement la sonde de son alimentation électrique. Le 21 décembre dernier, la NASA a mis un terme à cette mission car l'énergie disponible était devenue insuffisante pour poursuivre les opérations. Elle reste néanmoins à l'écoute d'un éventuel réveil d'InSight car le vent peut avoir aussi parfois la bonne idée de nettoyer la poussière des panneaux solaires. La bonne nouvelle concerne le rover Perseverance, dont l'une des principales missions consiste à récolter des échantillons du sol martien sous forme de carottes, à peu près de la taille d'une craie d'école, conservés précieusement dans des tubes en attendant qu'ils soient rapportés sur Terre par une future mission appelée Mars Sample Return, en français « Retour des échantillons martiens », conjointe de la NASA et de l'ESA entre 2026 et 2031. Posée le 18 février 2021, Perseverance a commencé sa récolte le 6 août suivant par un raté, car l'échantillon trop fiable n'avait pas été correctement transféré de la foreuse vers le tube collecteur. Depuis, il s'est rattrapé en remplissant environ la moitié de ses tubes disponibles, avec encore 20 emplacements libres. Ou plutôt, je devais dire transportait, car le 21 décembre dernier, il a déposé un premier tube sur le sol martien et doit faire de même avec 9 autres au cours du mois, les disposant par sécurité à 5 mètres les uns des autres dans un tracé en zigzag. C'est la procédure qui est prévue pour qu'ils puissent être récupérés par des drones hélicoptères de la future mission américaine SRL, Sample Retrieval Lander, en français atterrisseur de récupération des échantillons, pour être chargés à bord d'une petite fusée qui les transportera jusqu'au satellite européen HERO, Earth Return Orbiter, un satellite de retour sur Terre, qui, comme son nom l'indique, doit les rapporter jusqu'à nous afin de pouvoir les analyser avec toute la puissance de nos laboratoires. Pour l'anecdote, je signale un anniversaire. Après-demain, vendredi 6 janvier, Perseverance aura passé 2 ans, 4 mois et 21 jours sur Mars, qui est la durée d'une orbite complète de cette planète autour du Soleil, autrement dit une année martienne. C'était la durée prévue initialement pour la mission de ce rover, mais il est très probable qu'il durera beaucoup plus longtemps, comme son prédécesseur Curiosity, prévu au départ pour la même durée, mais qui arpente la surface martienne depuis plus de 10 ans, s'étant posé en août 2012. À propos des missions spatiales qui durent longtemps, un petit mot de Hubble, le vieux télescope spatial un peu éclipsé dans les médias par le JWST, mais qui continue à fournir de bonnes images malgré la perte de la moitié de ses gyroscopes, 3 sur 6, permettant un pointage précis. Il est actuellement à environ 540 km d'altitude, donc bien plus haut que l'ISS, mais si on l'abandonne à son sort comme prévu, son frottement sur la très haute atmosphère le ralentit inexorablement jusqu'à provoquer sa chute probablement au milieu des années 2030. Pour lui éviter ce sort funeste, il faudrait envoyer une mission spatiale pour lui redonner un peu plus d'altitude d'ici 2025 au plus tard, selon les spécialistes, ce qui est impossible à faire avec un vaisseau habité depuis l'arrêt des navettes spatiales. Sans annoncer officiellement qu'elle envisage une telle mission de sauvetage par un vaisseau automatique Crew Dragon, la NASA avait signé un accord avec SpaceX pour étudier cette possibilité, et le 22 décembre dernier, elle a fait parvenir une demande d'information à des industriels américains, attendant une réponse d'ici un mois, donc d'ici le 23 janvier, pour envisager une mission de démonstration de la possibilité d'arrimer automatiquement une capsule à Hubble, démonstration qui serait à réaliser dans les 18 à 24 mois, mais avec l'impératif de ne pas endommager le télescope. Si elle avait lieu, cette opération pourrait prolonger la vie de Hubble d'une vingtaine d'années, et il se dit même qu'on pourrait en profiter pour l'équiper d'un nouveau système de pointage, donc peut-être un long sursis pour Hubble, dont les images dans le spectre visible sont complémentaires à ce que le JWST peut réaliser dans l'infrarouge. Et pour finir, la mauvaise nouvelle de l'ISS qui nous est parvenue mi-décembre, quand le Soyouz MS-22, qui est arrimé, a perdu une grande quantité de fluide dans la nuit du 14 au 15, annulant une sortie dans l'espace que deux cosmonautes soviétiques étaient en train de préparer. L'agence russe Roscosmos a précisé que cette fuite concernait le système de refroidissement du Soyouz, ce qui pourrait empêcher son utilisation pour le retour sur Terre, en mars, de 3 astronautes comme c'était prévu. Si cela se confirme, il faudrait envoyer le Soyouz MS-23 de la mission suivante à vide pour effectuer ce retour, ce qui perturberait la rotation de l'équipage à bord de l'ISS avec un déficit de 3 membres. Dans l'intervalle, si le vaisseau n'est plus utilisable, cela réduit aussi la sécurité de l'équipage, car en cas de danger nécessitant une évacuation d'urgence, il n'y a qu'un autre vaisseau actuellement arrimé à l'ISS, une capsule Crew Dragon, qui ne peut embarquer que 4 passagers alors qu'il y a 7 personnes à bord de l'ISS.
Allez, on est toujours en direct sur de radio, c'est la chronique astro de Michel Favré, réalisée, présentée par Michel, bien sûr. Et là, Michel, vous allez aborder le sujet, le thème du mois, le calendrier et l'astronomie.
Oui, parce que quel meilleur moment que la période du Nouvel An pour parler du calendrier. Juste quand on vient de changer d'année et que les pompiers, les postiers, les éboueurs ou autres vous proposent d'acquérir un nouveau calendrier. Plus précisément, j'aimerais montrer à nos auditeurs à quel point les calendriers sont liés à l'astronomie et aux phénomènes célestes. Lorsque j'intervenais avec le planétarium dans les écoles, collèges ou lycées d'Aquitaine, j'avais l'habitude de dire aux élèves que le calendrier, c'est entièrement de l'astronomie. Et pourtant, en regardant l'historique des chroniques, il semble que je n'ai pas abordé complètement ce sujet depuis une des toutes premières, en décembre 2014. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un calendrier ? Si nos auditeurs examinent leur tout nouveau calendrier 2023, des postes ou des pompiers, ils pourront voir qu'on y trouve le numéro de l'année, le décompte des jours auxquels on donne des numéros et des noms, par exemple le jeudi 26 janvier, et les fêtes civiles ou religieuses définies certains jours. Le 26 janvier, c'est par exemple la Sainte-Paul, date que j'ai choisie car c'était la fête de ma mère qui s'appelait Paulette. Pour le numéro de l'année, je n'ai pas besoin de développer. On prend un point de départ symbolique et on compte les années écoulées depuis. Pour les chrétiens, c'est la naissance du Christ. Pour les musulmans, l'Égir. Pour les juifs, la création du monde d'après la Genèse. Et ça explique que les années ne correspondent pas du tout dans ces trois calendriers. Mais il existait des cas bien plus compliqués, comme les Égyptiens qui recommençaient le décompte des années à un chaque fois qu'un nouveau pharaon montait sur le trône. Ce qui complique beaucoup pour les historiens la correspondance des dates d'événements historiques de l'Antiquité égyptienne avec notre propre calendrier. Pour l'année et les jours, on trouve deux phénomènes astronomiques. La journée avec l'alternance jour-nuit est le résultat observable de la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. Pour être précis, c'est la rotation synodique, c'est-à-dire en prenant le Soleil comme repère. L'année est la durée de la révolution complète de la Terre sur son orbite autour du Soleil. C'est un phénomène lent qu'on ressent notamment par le changement des saisons et les cycles biologiques, les feuilles des arbres, l'apparition des fleurs et des fruits, la reproduction des animaux. Mais dont la durée n'est pas si facile que ça à mesurer. Pour simplifier, disons qu'on peut le faire avec les solstices et qu'on sait aujourd'hui qu'elle est à peu près de 365 jours et un quart, ou 6 heures. Comme il est plus simple pour nous de compter un nombre de jours entiers dans le calendrier, on comprend qu'en mettant 365 jours, on commet une petite erreur d'environ un quart de jour chaque année, écart que l'on corrige en ajoutant un jour supplémentaire tous les 4 ans, avec une année bissextile de 366 jours. On évite ainsi que le calendrier ne dérive lentement dans le temps, ce qui provoquerait un décalage des saisons dans le calendrier, très peu pratique pour les agriculteurs par exemple. Comme son numéro est impair, 2023 ne peut pas être bissextile, la prochaine sera 2024.
Alors qu'en est-il des mois et des semaines ?
Alors pour cela, il faut observer un autre phénomène astronomique, le changement d'aspect de la Lune jour après jour dans le ciel, dû à la révolution de la Lune autour de la Terre, ce qui change son éclairage par le Soleil. Croissant plus ou moins gros, quartier quand la moitié est éclairée, gibbeuse quand elle est plus grosse, jusqu'à la pleine Lune avec le limbe complètement éclairé de face. On a de bonnes raisons de penser que ce cycle a été observé par les hommes dès la préhistoire. En novembre dernier, alors que j'étais à Paris pour les rencontres du ciel et de l'espace, je suis allé jusqu'au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye pour voir enfin un objet trouvé en Dordogne, à l'abri Blanchard, en 1910. Un petit os gravé datant d'environ 32 000 ans avant Jésus-Christ et dont l'étude, notamment par la NASA en 1964, semble démontrer qu'il représente ce cycle lunaire sur une période d'environ 6 mois. C'est clair que ce changement d'aspect de la Lune est le moyen le plus simple de compter les jours et qu'il a servi de base à nos calendriers. Un cycle complet, qu'on appelle une lunaison, dure 29 jours et demi, ce qui est bien proche de nos mois. Et dans le cycle, il y a quatre grandes phases bien remarquables. La nouvelle Lune, quand la Lune est invisible dans le ciel car nous sommes du côté plongé dans l'ombre. Le premier quartier, la pleine Lune et le dernier quartier. En divisant le cycle de 29 jours et demi par 4, on trouve environ 7. C'est la semaine. Il y a environ une semaine entre les grandes phases lors d'un cycle lunaire. On peut d'ailleurs le voir dans le calendrier des postes où les cycles lunaires sont marqués. Dans l'Antiquité, ce nombre de jours coïncidait bizarrement avec le nombre de planètes visibles dans le ciel. En effet, sans lunettes ou télescope, on peut voir 5 planètes dans le ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mais à l'époque, on considérait le Soleil et la Lune comme des planètes, c'est-à-dire des objets qui se déplacent dans le ciel par rapport aux étoiles. 7 jours et 7 planètes, on a donc nommé, par un processus trop compliqué à expliquer ici, chaque jour de la semaine avec une planète. Lundi, c'est le jour de la Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, c'est le jour du Soleil, ce qu'on entend mieux en anglais, Sunday, ou en allemand, Sonntag, qu'en français, où il est devenu jour du Seigneur pour les chrétiens. Donc même dans les noms des jours, on retrouve de l'astronomie.
Alors Michel, pourquoi dans le calendrier, il y a des mois de 30 ou 31 jours et 28 pour février ?
Alors, au départ, on base le calendrier sur les lunaisons en définissant des mois alternativement de 29 jours et de 30 jours, ce qui fait en moyenne 29 jours et demi de la lunaison. C'est un système simple, car il suffit de regarder la Lune dans le ciel pour savoir, à sa forme, quel jour on est dans le mois. Ça se complique un peu quand on veut faire l'année, car il y a 12 lunaisons, donc 12 mois par an, mais ça ne tombe pas juste. Parce que 12 fois 29 jours et demi, ça fait 354 jours, donc un écart de 11 jours par rapport à l'année solaire. La première solution est de rester sur le rythme lunaire sans se soucier de l'année solaire. Et c'est le cas du calendrier musulman, avec des années de 354 jours, parfois 355 jours, pour compenser les années bissextiles appelées dans ce calendrier abondantes. Un calendrier qui se décale sans arrêt par rapport au soleil et à notre propre calendrier. La deuxième solution consiste à essayer de réconcilier le calendrier et le soleil en compensant les 11 jours, donc à peu près un tiers de mois lunaire, tous les 3 ans environ. C'est le cas du calendrier juif qui est dit lunisolaire, avec des années ordinaires de 12 mois lunaires et des années de 13 mois lunaires, dites embolismiques, dans un cycle de 19 ans, dont 7 embolismiques. La troisième solution, la plus pratique pour des agriculteurs comme les Romains, c'était de réconcilier le calendrier avec l'année solaire en trichant sur la durée des mois. 11 jours d'écart pour 12 mois lunaires, il suffit d'ajouter un jour à chaque mois sauf un, d'où des mois de 30 et 31 jours et un mois plus court que les autres à 29 jours. 6 mois de 31, 5 de 30 et 1 de 29, ça fait 365 jours. Le compte est bon pour les années ordinaires et ça commence à ressembler à notre calendrier. Mais ça n'explique pas encore tout. Pourquoi février de seulement 28 jours et 2 mois de 31 qui se suivent, juillet et août? Pour comprendre cela, il faut revenir à l'histoire de l'évolution du calendrier depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui. Depuis 154 avant Jésus-Christ, le calendrier romain était un calendrier lunaire, avec des mois de 29 et 30 jours. Particularité, il commençait en mars, un mois de 30 jours, avec 4 mois ayant des noms particuliers, mars, avril, mai, juin, et 2 en fin d'année, janvier et février, en rapport avec des divinités. Et au milieu, des mois simplement numérotés, Quintilis, le 5e, Sextilis, le 6e, etc. Ça nous permet de comprendre pourquoi les mois de septembre à décembre ont des noms qui font référence à des nombres, 7, 8, 9 et 10, ne correspondant plus à leur place dans l'année actuelle. En 45 avant Jésus-Christ, sur proposition d'un astronome grec, Sosigène d'Alexandrie, Jules César réforme le calendrier en adoptant l'année solaire avec des mois passant de 29-30 jours à 30 et 31 jours, sauf février, étant le dernier mois de l'année solaire, l'année romaine, pardon, il ne reçoit rien lors de la distribution des 11 jours, qui reste donc février à 29-30 jours selon que les années sont ordinaires ou bissextiles. On fait aussi commencer l'année le 1er janvier. Et pour rendre hommage à l'empereur, le nouveau calendrier est baptisé Julien, et on donne son nom au premier mois qui n'en avait pas et qui devient Julius, d'où vient notre juillet. Et bien sûr, c'est un mois de 31 jours, on ne pouvait pas faire moins pour l'empereur. Dans ce calendrier, le mois suivant, août, pour nous, avait 30 jours, septembre 31, etc. Une deuxième réforme survient quelques années plus tard, en 9 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Auguste, car on s'était planté en comptant trop d'années bissextiles, qui était un concept nouveau du calendrier julien. Pour lui rendre hommage, on baptise Augustus, le premier mois sans nom, d'où notre août, et ce qui est encore plus évident avec le Auguste des Anglais. Et on ne pouvait pas faire moins que de lui attribuer aussi 31 jours, à l'égal de Jules. Pour cela, on pique un jour à février, qui se retrouve amputé à 28 jours, 29 les années bissextiles. Et pour éviter d'avoir 3 mois de 31 jours de suite, on modifie tous les mois suivants. Septembre passe à 30 jours, octobre à 31, etc. Et voilà notre calendrier actuel. Sauf qu'il n'est plus julien, mais grégorien, car légèrement rectifié en 1582 sous le règne du pape Grégoire XIII.
Et en quoi consistait cette dernière modification du calendrier?
Alors c'est pour corriger une petite erreur de calcul. En effet, quand on dit que l'année solaire compte 365 jours et un quart, c'est-à-dire 365 jours et 6 heures, c'est un arrondi, car elle est en réalité légèrement plus longue de quelques minutes. C'est environ 365,256 jours, soit 365 jours, 6 heures, 9 minutes et presque 10 secondes. Ça semble dérisoire, mais sur des siècles, ça creuse un écart non négligeable, car en comptant une année bissextile tous les 4 ans, on ajoute trop de 29 février, et le calendrier finit par se décaler lentement par rapport à la révolution de la Terre autour du Soleil, donc les saisons. Au bout de presque 1600 ans, l'écart avait atteint 10 jours, et ce décalage était visible. Par exemple, dans le dicton de l'époque, on disait « la Saint-Barnabé est le jour le plus long de l'année », alors qu'il s'agit du 11 juin, 10 jours avant le 21 juin, qui est la date habituelle du solstice d'été, le jour le plus long de l'année. L'erreur correspond en fait à 3 années bissextiles de trop tous les 400 ans. On a donc décidé de ne plus compter comme bissextiles toutes les années de siècle, mais seulement celles dont le numéro de siècle est divisible par 4. Par exemple, 1900 n'était pas bissextile, bien que divisible par 4, mais 19 ne l'est pas. Alors que 2000 était bissextile, car 20 est divisible par 4. Avec ce nouveau calcul, l'erreur ne sera plus que d'un jour tous les 4000 ans environ, ce qu'on pourra sans doute corriger en décidant que les années multiples de 4000 ne seront pas bissextiles, mais nous laissons cette réforme à nos lointains descendants. Je veux juste attirer l'attention sur un effet curieux de la réforme grégorienne du calendrier. Pour le recaler par rapport au solstice, il était décidé de sauter 10 jours, en passant directement du 4 octobre 1582 au 15 octobre, dans la plupart des pays catholiques. Mais comme cette réforme n'a pas été appliquée partout en même temps, cela a provoqué des décalages de calendrier pendant des décennies. Par exemple, l'Angleterre protestante et son empire ne l'ont appliqué qu'en 1752, où il a fallu sauter 11 jours du 2 au 14 septembre. Les calendriers français et anglais sont donc restés décalés d'une dizaine de jours pendant près de 170 ans. Et Umberto Eco a utilisé cela dans son célèbre roman Le Pendule de Foucault pour faire rater un rendez-vous entre des Français et des Anglais. L'un des derniers pays à avoir appliqué la réforme grégorienne est la Grèce, en 1923, où il a fallu sauter 13 jours du 15 février au 1er mars.
Alors, est-ce qu'il y a un autre, entre guillemets, truc astronomique dans le calendrier ?
Alors, pour finir, je peux suggérer à nos auditeurs de faire une petite observation astronomique dans le calendrier. Il suffit de prendre un calendrier 2023, de la Poste ou des pompiers, par exemple, et de compter les jours des saisons. Actuellement, nous sommes en hiver, et jusqu'au 19 mars, car le 20 mars sera l'équinoxe de printemps qui marque l'entrée dans cette saison. Depuis le 1er janvier, cela fera donc au total 78 jours. 31 en janvier, 28 en février et 19 en mars. Mais nous étions déjà en hiver fin décembre 2022, ce qu'on peut compter sur le calendrier 2023 du 22 septembre, qui est le solstice d'hiver, au 31, soit 10 jours. Donc au total, 88 jours pour l'hiver. De même, on comptera 90 jours en automne, du 23 septembre, équinoxe d'automne, jusqu'au début de l'hiver. Soit au total 178 jours pour aller de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps. Et pour l'autre moitié de l'année, on peut aussi compter les jours du printemps et de l'été sur le calendrier ou faire tout simplement la soustraction, 365 jours moins 178, pour trouver 187 jours de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne. Mais cet écart de 9 jours est difficile à comprendre si on imagine le phénomène astronomique. En un an, la Terre parcourt une orbite autour du Soleil, donc la moitié d'un équinoxe à l'autre. Alors pourquoi les deux durées ne sont-elles pas identiques ? L'explication vient d'une règle de mécanique céleste qu'on appelle la deuxième loi de Kepler, parmi les trois lois qui définissent le mouvement des planètes autour du Soleil, découverte au début du XVIIe siècle par l'astronome allemand Johannes Kepler. Pour faire simple, la deuxième loi indique que plus la Terre, ou toute autre planète, est proche du Soleil, plus elle se déplace vite sur son orbite. La Terre parcourt donc plus vite la moitié de son orbite en automne et hiver que l'autre moitié au printemps et en été, car elle est plus près du Soleil pendant cette période de l'année. En effet, c'est toujours début janvier que la Terre passe au périhélie, le point le plus proche du Soleil de son orbite. Pour être précis, en 2023, c'était ce matin, 4 janvier, à 7h11. Et en plein hiver, ce qui nous montre bien que les saisons n'ont rien à voir avec la distance de la Terre au Soleil, mais proviennent de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, comme nous l'avons déjà expliqué ici à de nombreuses reprises. Et comme je l'avais annoncé au début, je crois que tout ça nous montre bien que le calendrier, c'est entièrement de l'astronomie.
Allez, nous sommes toujours en direct sur Odo Radio, toujours avec Michel Favré pour sa chronique astro numéro 94 dans la hiérarchie. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de la chronique avec le ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org. Pour avoir les cartes du ciel correspondantes, c'est difficile de les montrer à la radio et avoir plus de détails. Je l'ai mise à jour pour janvier lundi dernier. Mais avant de commencer cette éphéméride mensuelle, un petit aperçu de ce que nous réserve 2023 dans le ciel, avec malheureusement peu de phénomènes notables. Les deux éclipses de soleil, hybrides, c'est-à-dire en partie totale et en partie annulaire, du 20 avril et l'annulaire du 14 octobre, ne seront pas visibles en Europe, mais seulement dans la zone Pacifique pour la première et les Amériques pour la deuxième. Du côté des éclipses de lune, ce n'est pas mieux, avec la première du 5 mai, qui sera par la pénombre de la Terre, autant dire très peu perceptible, et se produira pour nous juste au lever de lune. Et celle du 28 octobre ne sera que très partielle, notre satellite ne pénétrera que d'environ 10% dans l'ombre de la Terre. Donc une vision bien moins spectaculaire qu'une belle éclipse totale. Il ne nous reste guère que deux conjonctions de planètes très serrées, dès ce 22 janvier, avec Vénus et Saturne séparés de moins de 1,5 degré, mais dans les lueurs du crépuscule et très basses à l'horizon ouest, puis le 1er mars avec Jupiter et Mars. Mais comme je le dis chaque année, on pourrait être surpris par une belle comète, peut-être dès ce mois de janvier, comme nous allons le voir dans quelques minutes. En janvier, les jours commencent à rallonger depuis que nous avons passé le solstice d'hiver du 21 décembre. Mais ça ne se fait pas encore beaucoup sentir, car la nuit commence encore très tôt ces jours-ci, avec le soleil qui se couche vers 17h30 et la nuit noire qui survient vers 18h40. À la fin du mois, ce sera environ une demi-heure plus tard. En ce début d'hiver, certaines constellations de l'été sont encore visibles en tout début de nuit, mais complètement à l'ouest, avec la Voie lactée qui se dresse encore verticalement dans le ciel, de l'Aigle au Cygne. Toute la région sud est encore peuplée des constellations de l'automne, avec Pégase, facilement reconnaissable à un grand carré régulier très haut dans le ciel. Ce sont des conditions particulièrement favorables pour observer la grande galaxie d'Andromède, l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, à environ 2,5 millions d'années-lumière. Dans une simple paire de jumelles, on voit déjà un petit ovale dans le ciel. Et vers l'est, ce sont les constellations de l'hiver qu'on peut reconnaître, notamment le Taureau, avec Mars en ce moment, et Orion en train de se lever. Avec la figure du grand G de l'hiver, formée par les étoiles les plus brillantes entourant Orion, on peut parcourir facilement les principales autres constellations de la saison, Taureau, Cochet, Gémeaux, Petit et Grand Chien, celui-ci n'étant complètement levé que vers 22h en ce moment. En fin de mois, la configuration sera complètement décalée vers l'ouest, avec en début de nuit le Cygne déjà sur le point de se coucher, Pégase descendant déjà vers l'ouest, et les constellations de l'hiver toutes visibles, juste à l'exception du train arrière du Grand Chien. Côté planète, on ne peut pas rater le phare très brillant de Jupiter vers le sud en ce moment, le sud-ouest à la fin du mois, qu'il faut se dépêcher d'observer en début de nuit ou de mois, tant qu'il est encore assez haut. Par exemple, avec une paire de jumelles pour voir ses quatre principaux satellites. Pour Saturne, la saison est passée, car elle est déjà très basse à l'ouest en début de nuit et sera presque couchée à la fin du mois. D'où l'observation difficile de son rapprochement avec Vénus le 22. À l'opposé, Mars, bien reconnaissable à sa couleur orangée, est déjà bien haute du côté est en début de nuit et continue de monter vers le sud. Vénus, de retour dans le ciel du soir depuis la mi-décembre, est encore basse dans les lueurs du crépuscule, mais se couche de plus en plus tard au fur et à mesure qu'elle s'écarte du soleil. Mercure n'est presque pas observable ce mois-ci. Comme chaque mois, la Lune s'approchera des planètes visibles dans une série de conjonctions. Hier soir, elle était très proche de Mars. Le lundi 23, un très fin croissant se rapproche du duo Vénus-Saturne qui se sera à peine écarté par rapport à sa conjonction de la veille. Le mercredi 25, le croissant se rapproche de Jupiter. Puis le lundi 30, la grosse lune gibbeuse s'approchera de Mars avec la brillante étoile Aldébaran du Taureau pour former un triangle assez régulier. Situation analogue le lendemain, sauf que la lune sera passée à l'est de Mars, démontrant bien son déplacement en un jour par rapport à cette planète et aux étoiles. Côté satellite artificiel, on pourra observer le passage de l'ISS dans le ciel tous les soirs à partir du 15, entre 18h30 et 20h10. Les horaires précis étant indiqués sur la page « Ciel du mois » de mon site web. Idem pour la station chinoise Tian'e à partir du 19. Et sur la même page, on pourra trouver une carte indiquant les positions jour après jour d'une petite comète à partir du 15. Il s'agit de C2022E3ZTF, découverte en mars 2022 et qui a commencé en décembre à développer une belle queue selon les photos prises avec des télescopes. Comme elle se rapproche du Soleil, au maximum ce sera le 12, qu'elle sera le plus près du Soleil, ce qui la rend plus active avec une queue plus longue et plus lumineuse, et qu'elle continue à se rapprocher de nous jusqu'au 1er février, on pense qu'elle pourrait devenir visible à l'œil nu en fin de mois. Et en plus, elle devient circumpolaire, donc ne se couche plus à partir du 17, mais il vaut mieux l'observer tard dans la nuit ou plus tard dans le mois quand elle sera montée vers la petite ours. Nous reparlerons sans doute de cette comète lors de la prochaine chronique, peut-être le mercredi 8 février.
Voilà, c'est bien ça pour la date, Michel. Voilà, merci pour cette chronique, on va le rappeler. Voilà, juste le temps que vous hydratez un petit peu après cette belle chronique. Donc on retrouve, hein, bien sûr, cette chronique va se retrouver avec ses sœurs, si je puis dire, sur le site constellationsetgalaxies.org. On se retrouve donc le 8 février pour la numéro 95, donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques mots en ce début d'année, Michel.
Rien de particulier. J'espère être fidèle au poste au moins jusqu'à la centième et peut-être jusqu'à la fin de l'année.
On va réfléchir pour la centième. Voilà, on va voir le comité des fêtes d'Odo Radio. Voilà, je ne sais pas si on peut organiser. On va pas faire forcément un événement, mais pourquoi pas une émission en extérieur, enfin à réfléchir. En tout cas, merci Michel. Hein, chaque fois pour c'est de la passion certes, mais c'est quand même du travail de préparer, de réaliser. Donc voilà, merci. Non, mais
comme je dis toujours, finalement, c'est aussi un bénéfice pour moi, parce que si j'avais pas à faire cette chronique tous les mois, peut-être je serais moins assidu à surveiller un peu les actualités, notamment sur des sites comme celui de la NASA ou de Ciel et Espace, hein, la revue de l'Association française d'astronomie. Sur le site web, on a, je veux pas dire tous les jours, mais très régulièrement des informations sur ce qui se passe, aussi bien du point de vue de l'astronomie que de l'astronautique, et ça me permet comme ça de rester à jour. Étant retraité, maintenant, ça me garde un peu d'activité régulière dans le domaine de l'astronomie. Et puis mon petit club, hein, parce que Constellation et Galaxie n'existe plus, hein, maintenant que je suis à la retraite.
Mais le site a gardé le nom.
J'ai gardé le site et le nom. Et à côté, j'ai créé un petit club d'astronomie dans mon village. Donc on va observer le ciel tous les vendredis ou samedis soirs, suivant la météo. Sauf quand c'est la pleine lune, comme ce week-end. Et puis, on organise quelques opérations publiques pour les grands rendez-vous, comme les nuits des étoiles, etc. Enfin, bref, il y a de quoi s'occuper quand on s'intéresse au ciel.
Allez, c'est sur ces dernières belles paroles qu'on vous remercie à nouveau, Michel. On se retrouve en début de mois prochain, le 8 février. Allez.